Bonjour à tous les auditeurs francophones et francophiles, bienvenue dans l'émission Le Débrief, c'est Alexis Gagnon au micro, en votre compagnie jusqu'à 17h à l'antenne du CILS FM 107,9. On débute tout de suite ces 60 minutes d'information avec les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Je vous retrouve dans quelques minutes avec les prévisions de la météo. Nous avons présentement au centre-ville 11 degrés avec une mince probabilité d'averse de 30% au cours des prochaines heures. La météo sera suivie du radio-journal de l'ONU et de bien d'autres actualités, notamment les actualités provinciales. En fin d'émission, vers 16h40, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Madame Claire Carlin, présidente de l'Alliance française de Victoria. Professeur émérite de l'Université de Victoria, Madame Carlin évoquera ses plus récents travaux sur l'institution du mariage à travers l'histoire. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. L'Association canadienne des automobilistes s'est prononcée sur la légalisation de la marijuana via un sondage qu'elle a réalisé auprès de plus de 2000 Canadiens. Selon le sondage, 63% des Canadiens croient que la sécurité routière sera compromise lorsque la marijuana sera légalisée. Le sondage révèle également que 26% des 18-34 ans croient à l'inverse que les capacités d'un automobiliste demeurent inchangées et se voient même améliorées avec l'usage de la marijuana. Jeff Walker, vice-président des affaires publiques de la CAA, a déclaré qu'il faut s'assurer de faire de la sécurité routière une priorité dans ce contexte. Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du premier ministre Justin Trudeau, a souligné l'importance historique du Maple Leaf Gardens de Toronto. Une cérémonie spéciale a eu lieu à l'amphithéâtre en présence de membres de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et d'anciens joueurs des Leafs. L'événement avait été organisé dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. Adam Vaughan a mentionné qu'Ottawa encourage la population canadienne à profiter de l'occasion pour en apprendre davantage sur cet endroit inspirant et sur le rôle important qu'il a joué dans l'histoire canadienne. Selon le syndicat canadien de la fonction publique, les changements proposés au régime de pension du Canada désavantagent les femmes et les personnes ayant un handicap. Le syndicat qualifie cette situation de profondément injuste. Le syndicat demande également au gouvernement fédéral de corriger son projet de loi C-26. Le président du syndicat, Mark Hancock, a dit que les membres trouvent très inquiétant qu'Ottawa abandonne ces personnes déjà vulnérables. Le Service national des enquêtes des Forces armées canadiennes demande l'aide de la population du pays en rapport à une enquête sur les allégations d'agression sexuelle impliquant un enfant. Le tout se serait déroulé à la base de soutien de la 3e division du Canada à Edmonton entre 1978 et 1980. Le service a précisé dans un communiqué que l'enquête porte sur un adolescent civil ne faisant pas partie de la famille qui aurait agressé sexuellement un enfant alors qu'il le gardait dans un logement militaire de la base. Il y aura des changements au sein du programme gouvernemental Entrée Express. Le programme qui tend à rendre le système d'immigration plus juste et adapté aux nouveaux besoins permettra aux candidats d'avoir plus de temps pour présenter une demande de résidence permanente lorsqu'ils recevront une invitation. Il y aura aussi une attribution de points pour les offres d'emploi à des candidats admissibles qui se trouvent déjà au Canada. Ces changements entreront en vigueur le 19 novembre. Stéphane Dion doit rencontrer aujourd'hui le premier vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Serbie, Ivica Dačić. La rencontre est prévue à Ottawa. Le ministre canadien des Affaires étrangères et son homologue serbe examineront certains aspects des relations Canada-Serbie. Le sujet de la sécurité dans les Balkans est également à l'agenda, tout comme ceux des droits de la personne et des investissements canadiens en Serbie. Ottawa va investir 2 millions de dollars dans le réseau mondial des plans nationaux d'adaptation. Ceux-ci auront pour but d'aider aux mesures prises par les pays les plus pauvres pour s'adapter aux effets des changements climatiques. L'annonce a été faite par Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, présentement à Marrakech, au Maroc. Ce financement aidera les nations en développement à trouver des solutions adaptées à leur pays pour faire face aux effets des changements climatiques. La ministre a dit que l'initiative aidera des citoyens de ces pays à prospérer. On demeure dans le domaine environnemental. Le Canada investira une somme de 14 millions de dollars pour réduire les polluants de courte durée de vie dans le cadre des partenariats avec le Mexique et le Chili. Le gouvernement Trudeau a indiqué que ces polluants tels que le méthane ont un effet sur le climat. Le gouvernement a précisé que les travaux se feront dans le secteur pétrolier et gazier du Mexique et dans les sites d'enfouissement au Chili. Au sport au hockey, bien Eric Lindros, Rogatien Vachon, Sergei Makarov et Pat Quinn ont fait leur entrée officiellement au temple de la renommée du hockey hier soir à Toronto. Pour plusieurs, bien Lindros est à jamais associé, bien sûr, à son refus d'évoluer avec l'équipe qui l'avait repêché, les Nordiques de Québec, et à la transaction monstre qui allait l'envoyer aux Flyers de Philadelphie quelques mois plus tard. Maintenant, bien sur la glace, hier, une seule rencontre dans le circuit Batman. Victoire par blanchissage de Tampa Bay 4-0. Contre les Islanders de New York. Ce soir, eh bien, toutes les équipes canadiennes sont à l'œuvre. Ottawa sera à Philadelphie, la Floride à Montréal, Nashville à Toronto. Winnipeg recevra Chicago, Vancouver fera de même avec les Rangers de New York. Calgary sera au Minnesota et Edmonton à Anaheim. Dans la NFL, au match du lundi soir, victoire des Giants de New York, 21-20 contre les Bengals de Cincinnati. Et ce soir, dans la NBA, Toronto sera à Cleveland.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine, 16h06 à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'écouter le débrief, Alexis Gagnon en votre compagnie jusqu'à 17h. On se penche sur les données météo. C'est 8 degrés actuellement au centre-ville de Victoria. Le mercure a descendu de quelques crans au cours des 30 dernières minutes. On a 10 degrés dans le port de Victoria et c'est actuellement 9 degrés à l'aéroport de Victoria à proximité de Sydney. Et si on jette un petit coup d'œil au radar actuellement, il y a quelques gouttes de pluie du côté de Souk actuellement dans le sud de l'île de Vancouver. Pour le moment, les averses se sont arrêtées dans le Grand Victoria. La probabilité de 30% demeure pour les prochaines heures. Et pour demain, 16 novembre, on a une prédiction de 10 degrés de la part de Environnement Canada, une probabilité d'averse assez élevée à 60%. Jeudi 17 novembre, ce sera 9 degrés avec 60% de probabilité d'averse. Et la pluie reste dans la région encore quelques jours par la suite. Vendredi 18, samedi 19 et même dimanche 20, c'est de la pluie qu'on nous prédit sur le portail météo. .gc.ca avec des mercures qui vont osciller aux alentours de 10-11 degrés durant le jour. Donc voilà pour les prévisions de la météo. On a actuellement 8 degrés au centre-ville. On écoute tout de suite le bulletin des Nations Unies. À tout de suite.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérôme Longuet pour cette nouvelle édition du journal de la Radio des Nations Unies. Avec à la une le début de la réunion ministérielle de la conférence de Marrakech sur le climat. Nous reviendrons sur les déclarations de Ban Ki-moon. Le programme alimentaire mondial aide plus de 100 000 déplacés de la ville irakienne de Mossoul. Nous évoquerons aussi le sort des enfants centrafricains. Et puis en dossier, coup de projecteur sur l'agriculture syrienne après plus de 5 ans de conflit. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a donné ce mardi à Marrakech, au Maroc, le coup d'envoi du segment de haut niveau de la COP22, la conférence sur le climat. À cette occasion, de nombreux dirigeants du monde ont affirmé leur ferme soutien à la mise en œuvre de l'accord de Paris qui est entré en vigueur le 4 novembre, après un processus de ratification particulièrement rapide. Cet accord est l'un des plus complexes au monde et il appelle notamment les États à lutter contre le changement climatique en limitant à moins de 2 degrés Celsius la hausse de la température mondiale, tout en s'efforçant de ne pas dépasser 1,5 degré Celsius. Ban Ki-moon a indiqué que cela signifie que les émissions mondiales devront atteindre leur niveau le plus élevé en 2020 et décroître ensuite rapidement dès lors. Le point avec Isabelle Dupuis.
À Marrakech, Ban Ki-moon a déclaré que l'entrée en vigueur de l'accord de Paris marque le début d'une nouvelle ère de coopération mondiale sur les changements climatiques. Le secrétaire général a notamment indiqué que plus de 150 millions de personnes vivent actuellement sur des terres qui risquent d'être submergées d'ici un siècle, ce qui provoquera d'importants mouvements migratoires et d'instabilité. Ban Ki-moon a souligné l'énorme responsabilité qui incombe à tous de prendre les bonnes décisions pour notre avenir commun. Il a d'ailleurs fortement encouragé les États à revoir à la hausse l'ambition de leurs efforts d'atténuation au niveau national d'ici à 2018. Il a aussi jugé que le secteur privé doit agir davantage. Le secrétaire général a en outre appelé à l'élimination du subventionnement des combustibles fossiles pour accélérer la transition vers la production d'énergie propre. Nous disposons de tous les chiffres, a martelé Ban Ki-moon, et nous n'avons aucun droit de jouer avec l'avenir des générations futures ou de mettre en péril la survie des autres espèces de la planète.
Merci Isabelle. Avant le lancement du segment de haut niveau de la COP22, Ban Ki-moon a appelé devant la presse le monde des affaires à faire davantage pour saisir les nombreuses opportunités que présente une économie à faible émission de carbone. Il a aussi souligné qu'aucun pays, aussi puissant soit-il, n'est immunisé contre l'impact du changement climatique. Ses échanges avec les journalistes ont d'ailleurs été dominés par ses réactions à l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Selon la presse, ce dernier remet en cause le changement climatique et ne compterait pas honorer l'engagement de son pays à mettre en œuvre l'accord de Paris. On écoute Ban Ki-moon.
Je me suis déjà attardé sur nos attentes et notre espoir que le président élu Trump prendra conscience de la gravité et de la nécessité urgente de faire face au changement climatique. Mon sentiment est qu'ayant réussi dans les affaires avant d'être élu, il comprend que les forces du marché sont déjà en place sur cette question et qu'il faut les exploiter pour le bien de la planète et de toutes les espèces du monde. Plus de 3000 scientifiques de haut niveau du monde entier n'ont cessé de publier des rapports qui indiquent que les changements climatiques sont une réalité. Si nous ne mobilisons pas nos forces technologiques, scientifiques, économiques et politiques pour faire face à ce phénomène climatique, nous hypothéquerons, pleurerons, non seulement l'avenir des générations futures, mais celui de la planète elle-même. Il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Il faut travailler très dur, très sérieusement et dans l'urgence.
On reparle de l'Irak où le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, a fourni de l'aide alimentaire à plus de 100 000 déplacés de la ville de Mossoul, ville qui a été aux mains de Daesh depuis 2 ans et qui serait en passe d'être libérée. Les organisations humanitaires restent sur le qui-vive car elles craignent que les opérations militaires lancées contre Mossoul n'entraînent un déplacement massif de civils. Face à cette urgence humanitaire, le PAM et ses partenaires travaillent sans relâche pour atteindre les familles piégées dans la ville et les zones nouvellement reprises au nord de l'Irak. Alpha Diallo.
Acheminer de la nourriture reste un défi logistique et sécuritaire pour les organisations humanitaires à Mossoul. Selon le Programme Alimentaire Mondial, la difficulté de livrer des vivres n'est pas étrangère à la précarité de la situation sécuritaire. De nombreux villages sont ainsi fortement touchés par des mines improvisées et d'autres engins explosifs. Mais dès que des zones sont libérées et un accès est sécurisé par les forces armées irakiennes, le PAM fournit des rations alimentaires aux familles vulnérables, notamment un approvisionnement de mois en aliments de base, comprenant du riz, de la farine de blé, des pois chiches, de l'huile végétale, du sucre et du sel. Une aide alimentaire urgente dont ont bénéficié jusqu'ici plus de 100 000 personnes fuyant le conflit à Mossoul. Parmi ces bénéficiaires, il y a eu cette distribution de dimanche dernier à 25 000 personnes à Gojali, le premier quartier repris dans la ville. Il faut juste rappeler que plus de 54 000 personnes ont été déplacées par les combats à Mossoul. Selon le PAM, près de 3/4 des familles déplacées ont trouvé refuge dans des camps et 1/4 dans des communautés d'accueil au nord de l'Irak. Alpha Diallo, Genève pour la Radio des Nations Unies.
Et puis à 2 jours de la conférence réunissant les pays donateurs pour la reconstruction de la République centrafricaine, l'UNICEF rappelle que bien que la fragile reprise se poursuit dans le pays, plus de 850 000 personnes à RCA, dont la moitié sont des enfants, restent éloignés de leur foyer, soit comme déplacés internes, soit comme réfugiés dans les pays voisins. Une situation préjudiciable pour les enfants, comme le souligne Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF.
Les enfants ont quitté la RCA, ils sont essentiellement au Cameroun, au Tchad, en République démocratique du Congo et au Congo. Ils ne sont pas dans des conditions qui leur permettent de se développer, d'étudier et ils ne sont pas en sécurité par rapport à l'accès à l'eau, par rapport à la nutrition. Pour ceux qui sont en République centrafricaine, plus d'un tiers des enfants ont été déscolarisés. Il y a 41% d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition chronique. Et il y a toujours entre 6 000 et 10 000 enfants qui ont été recrutés par des groupes armés qui n'ont donc pas une vie d'enfant telle qu'ils devraient l'avoir. Tout cela, cette normalisation qui ne s'est pas faite, c'est à cause des poussées de violence. Et plus que jamais, il est important d'attirer l'attention et d'avoir des financements qui permettront d'investir dans les services sociaux, notamment la santé et l'éducation, pour que les enfants retrouvent une vie normale en République centrafricaine.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité et la situation en Syrie où, après plus de 5 ans de conflit, la production alimentaire a atteint son plus bas niveau. Conséquence, il est de plus en plus difficile pour les agriculteurs de préserver leurs moyens d'existence et de nourrir ce pays déchiré par la guerre alors que les combats se poursuivent et restreignent l'accès à la terre, aux approvisionnements et aux marchés. Un constat et bien d'autres réalisés par la dernière mission d'évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire menée par la FAO et le PAM. Les précisions de Jean Sénaoun, il est économiste à la FAO, des propos recueillis par Muriel Sarr.
Le conflit qui perdure en Syrie a un impact très important sur la situation alimentaire dans le pays. Plus de la moitié de la population actuellement, plus de 9 millions de personnes, ont besoin d'assistance alimentaire et de soutien pour reprendre leur activité agricole. Cela, c'est le résultat de plusieurs facteurs, parce que la crise conduit à un déplacement généralisé de population. Ça affecte la production nationale, non seulement au déplacement de population, mais les intrants qui ne sont pas disponibles, dont les coûts sont très élevés, ne sont pas accessibles. Donc tout cela affecte la production nationale, mais l'accès des populations à ce qui est produit.
Le blé et l'élevage sont essentiels pour la sécurité alimentaire nationale et le marché local. Quels sont actuellement les principaux enjeux liés à la chaîne de conservation du blé ?
Le blé est un aliment de base en Syrie et la production de blé a vraiment souffert du conflit qui perdure. On estime la production de blé cette année à environ 1,5 million. Et ça, c'est le niveau de production le plus bas des 10 dernières années. Et comment cela se passe ? Comment est-ce que le conflit affecte la production agricole ? D'abord par les déplacements de population qui abandonnent les champs, ensuite par les dommages importants qui sont causés aux infrastructures d'irrigation, aux machines, aussi par la non-disponibilité d'intrants, les prix qui augmentent, et ça fait que même dans les zones où il y a les intrants, les producteurs n'ont pas accès aux intrants. Et en plus de cela, il y a des pluies qui ont été irrégulières dans certaines zones. Donc tous ces facteurs combinés affectent la production agricole qui ne fait que baisser d'année en année, ce qui est vraiment très inquiétant pour la sécurité alimentaire en Syrie.
Et quels sont ceux relatifs au secteur de l'élevage ?
Le secteur de l'élevage aussi joue un rôle très important dans l'économie syrienne. Et ça, c'est un secteur qui a aussi vraiment pâti de la crise qui continue. Le cheptel a subi des réductions importantes de 30 à 40%. Le secteur de la volaille, qui constitue la principale source de protéines dans le pays, a aussi été sérieusement affecté. Donc ça a un impact non seulement sur les revenus des populations, mais aussi sur la situation alimentaire.
Comment la FAO et ses partenaires soutiennent-ils la Syrie sur le long et le court terme ?
Jusqu'à présent, en 2016, la FAO a déjà apporté une assistance à travers la fourniture d'intrants, dont les semences, les kits de production de légumes, les aliments de bétail, mais aussi un soutien à la réhabilitation des infrastructures d'irrigation, parce qu'il est important d'aider les agriculteurs qui sont affectés par le conflit à pouvoir reprendre leurs activités, et c'est ça qui permet de rebâtir la résilience de ces populations. La FAO envisage de faire plus, mais pour cela, un engagement des bailleurs de fonds est nécessaire pour renforcer la résilience des producteurs et continuer à aider les ménages syriens.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies à retrouver sur l'Internet et les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Merci d'écouter le débrief à l'antenne de CILS FM. Il est 16h18, on a 8 degrés au centre-ville. Nous allons maintenant passer aux nouvelles provinciales. Bernard Richard défendra les enfants de la Colombie-Britannique. C'est une nouvelle qui paraît dans le journal L'Acadie Nouvelle. C'est l'avocat, travailleur social et homme politique Bernard Richard, un Acadien, qui sera le prochain représentant des enfants et de la jeunesse en Colombie-Britannique. Le comité spécial multipartite formé afin de pourvoir ce poste a annoncé cette semaine par voie de communiqué qu'il recommande unanimement la candidature de Bernard Richard à l'Assemblée législative de Colombie-Britannique au terme d'un processus de sélection de plusieurs mois. Cet ancien politicien provincial du Nouveau-Brunswick qui a notamment occupé les postes d'ombudsman et de défenseur des enfants et de la jeunesse au Nouveau-Brunswick a devancé 61 autres candidatures. Le comité a été impressionné par la passion de M. Richard à servir les enfants et la jeunesse, sa gestion couronnée de succès d'organisation du secteur public et son expérience considérable avec les communautés autochtones, a fait savoir le président du comité de sélection, Don McRae, dans un communiqué de presse émis cette semaine. Si l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique accepte la recommandation du comité spécial, Bernard Richard sera nommé pour un mandat de 5 ans. Il s'agit d'un mandat renouvelable à une reprise pour 5 années supplémentaires. Dans le média Burnaby Now, j'ai aperçu pour vous une nouvelle qui spécule sur l'impact que pourrait avoir l'élection de Donald Trump aux États-Unis sur l'économie colombienne, britanno-colombienne, et plus spécifiquement sur le projet d'expansion du pipeline Trans Mountain dans le sud de la province. C'est plutôt une spéculation qui provient d'un élu néo-démocrate provincial, Kennedy Stewart, qui était interviewé cette semaine par Burnaby Now. Kennedy Stewart estime que le projet d'expansion de Trans Mountain, qui est si polémique, qui est si controversé, pourrait être abandonné, puisque cet élu provincial, donc Kennedy Stewart, souligne que le nouveau président Donald Trump est favorable au pipeline Keystone XL. C'est un pipeline qui avait été rejeté par le gouvernement d'Obama au cours du dernier mandat du président Obama. Donc ce projet avait été remisé, mais l'élection de Donald Trump pourrait réanimer ce méga projet de pipeline appelé Keystone XL. Alors Kennedy Stewart a de bons arguments. Cette hypothèse paraît plausible. Il souligne que l'Alberta a déjà construit une grande partie de ce pipeline Keystone XL qui devrait se diriger vers le sud depuis l'Alberta jusqu'au Nebraska. Donc une large portion de ce pipeline est déjà construite. Par ailleurs, l'élu néo-démocrate provincial souligne que Justin Trudeau avait lui-même été favorable en 2015 et 2014 au projet Keystone XL. Et donc la construction définitive de ce projet, de ce pipeline reliant l'Alberta au Nebraska, rendrait inutile ou à toute fin pratique moins nécessaire en tout cas la construction du fameux pipeline Trans Mountain voulu par l'entreprise pétrolière Kinder Morgan. Alors ça reste à suivre. Kennedy Stewart, donc cet élu néo-démocrate de la circonscription de Burnaby South, connaît bien le dossier puisqu'il est au cœur d'un comté qui serait traversé par le pipeline Trans Mountain. Le pipeline Trans Mountain existe déjà, on parle d'une expansion en fait. Donc il connaît très bien le dossier et l'hypothèse qu'il avance est pertinente. Donc si vous voulez lire cet article paru dans Burnaby Now, c'est sous la manchette « Trump victory could impact Trans Mountain Pipeline Project ». C'est paru aujourd'hui, il y a quelques jours en fait, dans le média Burnaby Now. On se transporte du côté du portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. Il est question d'étudiants internationaux et de leur présence qui va en crescendo dans notre province. Les universités britanno-colombiennes détiennent la plus grande proportion d'étudiants internationaux, soit 17,6% au pays, selon les données de Statistique Canada pour la période entre 2004 et 2014. La province attribue ce succès à ses établissements publics et privés de grande qualité, la diversité de l'enseignement, la nature environnante et des communautés accueillantes. Le ministère de l'Éducation estime qu'offrir de l'éducation post-secondaire aux étudiants étrangers est un secteur en pleine expansion, ayant un impact significatif sur l'économie locale et l'emploi. Chaque année, les étudiants étrangers dépensent dans la province plus de 2 milliards de dollars en frais de scolarité, en logement et autres dépenses du quotidien, ainsi que dans la culture et les activités récréatives, peut-on lire dans un communiqué émis par le ministère de l'Éducation il y a quelques jours. Le secteur génère actuellement 27 000 emplois selon le gouvernement britanno-colombien. Entre 2010 et 2015, le nombre d'étudiants étrangers a augmenté de 44%, passant de 90 000 à 130 000 personnes. Pour 2016, la province vise une augmentation de 50 % par rapport à 2010. Cet article paraît dans le portail de Radio-Canada. Sinon, je mentionne en terminant ce bloc provincial une petite nouvelle sportive. La grande finale du soccer féminin universitaire a eu lieu il y a quelques jours. Elle opposait le Rouge et Or de l'Université Laval aux Thunderbirds de l'Université de Colombie-Britannique. Alors, c'est peut-être un match qui déchirait les partisans, disons, francophones de soccer féminin, puisque d'un côté, il y avait des francophones. Plusieurs des auditeurs, bien sûr, sont originaires du Québec. Et de l'autre, il y avait des jeunes athlètes de Colombie-Britannique. Donc, c'est l'Université Laval qui a remporté le championnat canadien de soccer féminin. C'est un deuxième titre pour Laval en 3 ans. C'est une victoire qui a été acquise à la 88e minute de jeu. Donc, c'est dire si le match était disputé chaudement. Et voilà, donc vous trouverez plusieurs comptes rendus de ce match de championnat qui a eu lieu en Nouvelle-Écosse il y a quelques jours dans les médias. La presse en a parlé, RDS.ca en a aussi parlé sur son site. On fait une petite pause musicale, on va écouter une artiste qui s'appelle Cléa Vincent, une pièce intitulée « Je m'y attendais pas ». On se retrouve dans quelques minutes au débrief pour la suite des infos. À tout de suite.
J'ai cherché l'amour dans les yeux des uns des autres, mais aucun n'a fait son lit dans mon nid de chercheuse d'or. Des histoires des entre-deux, j'en ai eu des tas, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas, je m'y attendais pas, je m'y attendais pas. Je me suis débattue dans les sables mouvants, j'ai érigé des remparts. Ils n'ont pas tenu longtemps l'amour sans horizon. Je l'ai vu 10 fois 100 fois, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas. Bleu et contre tout, couru la distance au risque de contre-coup. J'ai laissé les sentiments et dicté les lois, mais à l'heure de vérité, je n'y étais toujours pas. J'ai marché le long des plages, au bord de l'eau claire, pris le vent de la traversée en solitaire. J'ai tourné en rond, j'ai fait 100 fois les 100 pas, mais là où je suis maintenant, je suis tombée sur
L'artiste Cléa Vincent dans Le Débrief à 16h29. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 16 novembre, bienvenue dans l'émission. L'info se poursuit dans Le Débrief. On passe au bloc nouvelles du jour. On revient sur l'élection de Donald Trump aux États-Unis qui continue bien sûr de faire la manchette partout dans le monde. J'ai retenu pour vous une dépêche parue dans le journal La Tribune, latribune.fr. C'est un journal économique consacré aux questions économiques, un journal qui est généralement de droite. Ce journal fait état d'agressions contre les musulmans qui sont en forte hausse aux États-Unis ces derniers temps. Je vous lis quelques passages de cet article. Les agressions recensées par les forces de l'ordre à l'encontre de la communauté musulmane se sont multipliés en 2015. Avec l'élection de Donald Trump, les observateurs craignent encore une recrudescence des actes islamophobes cette année. Le climat est loin d'être apaisé aux États-Unis, écrit La Tribune. Les crimes de haine ont augmenté de 7% en 2015 aux États-Unis, selon les derniers chiffres publiés par le FBI. L'administration a enregistré 5850 crimes haineux en 2015 contre 5479 en 2014. Si ces chiffres sont à interpréter avec prudence, l'augmentation de ces actes peut en partie s'expliquer par une forte hausse des agressions contre la communauté musulmane. Le FBI définit un crime haineux comme une attaque criminelle contre une personne motivée, en partie ou dans son intégralité, contre une race, une religion, un handicap, une orientation sexuelle, l'appartenance ethnique ou encore le genre. Les actes recensés par les forces de l'ordre contre la communauté musulmane auraient augmenté de 67%, passant de 154 agressions en 2014 à 257 en 2015. C'est donc le chiffre le plus élevé depuis 2001, année des attaques contre le World Trade Center. En 2001, on avait recensé 481 crimes de haine, donc dangereux retour des agressions motivées par la haine aux États-Unis, et spécialement des agressions qui vise la communauté musulmane. C'est dans le journal La Tribune, latribune.fr. Je vous mentionne une déclaration faite par notre ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, qui assiste et participe actuellement à la conférence COP22 au Maroc. C'est dans la presse canadienne. Le titre « L'élan pour la réduction des gaz à effet de serre est irréversible malgré Donald Trump », selon Catherine McKenna. Donc un élan irréversible vers la réduction des GES, selon notre ministre de l'Environnement, c'est dans la presse canadienne. L'élan international pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les GES, est irréversible malgré l'élection de Donald Trump, a laissé entendre la ministre fédérale de l'Environnement, Catherine McKenna. La ministre a ainsi tenté cette semaine de minimiser le résultat de l'élection présidentielle de la semaine dernière aux États-Unis. Selon la ministre, le mouvement a atteint un point de non-retour, notamment parce que les entreprises et des firmes d'investissement y voient des possibilités de croissance et de profit. La ministre est actuellement à Marrakech, au Maroc, pour prendre part à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP22. L'élection du candidat républicain la semaine dernière a eu l'effet d'une douche froide sur le rendez-vous international. Donald Trump est un climato-sceptique avoué. Il veut retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Scellé l'année dernière, rappelez-vous, en 2015. C'est un accord qui vise à limiter l'augmentation moyenne de la température de la planète à au plus 2 degrés Celsius d'ici 2050. Donc maximum 2 degrés Celsius d'augmentation d'ici 2050. C'est ce que visent les pays signataires de la COP21. Donc cet article se poursuit sur plusieurs lignes. Je vous rappelle le titre. L'élan pour la réduction des GES est irréversible malgré Trump, selon Catherine McKenna, notre ministre de l'Environnement. Et finalement, dans ce bloc nouvelle du jour, je vous signale un commentaire l'élection de Trump. Encore une fois, ça paraît dans le portail bastamag.net, et il est fait état dans ce papier du fossé entre la réalité du terrain et les analyses et infos relayées par les médias. Donc les médias avaient tout faux, ils avaient prévu la victoire de Hillary Clinton. Je ne sais pas si vous aviez vu, par exemple, que le Huffington Post avait estimé à 98,2% les chances de Hillary Clinton de remporter la présidence. Donc, ça a été un camouflet assez sérieux à tous ces médias qui avaient clamé haut et fort la victoire certaine de la candidate démocrate. Donc, c'est un texte qui paraît dans bastamag.net. Je vous en lis quelques lignes. C'est signé par Dana Boyd. C'est une spécialiste des médias sociaux à l'Université de Berkeley. Elle écrit « Je m'interroge depuis des mois. Ce que j'observe sur le terrain et sur les divers réseaux ne correspond pas à ce que disent les commentateurs. Je sais de longue date que l'infrastructure des sondages n'est plus adaptée, mais à chaque fois que j'aborde le problème lié au choix des panels dans les grandes chaînes d'information, on me regarde comme si j'étais une extraterrestre et on m'assure qu'il faut que j'arrête de me tracasser. Au fil du temps, j'ai fini ces dernières semaines par penser que c'était moi qui avais tort, malheureusement non, et j'en veux beaucoup aux médias. » Donc voilà ce qu'écrit dans Bastamag l'auteur Dana Boyd, qui est spécialiste des médias sociaux à l'Université de Berkeley en Californie. Elle continue « Les médias sont en principe censés être des contre-pouvoirs, mais depuis des années maintenant, ils se complaisent à devenir des pouvoirs à part entière. Et ce qui est inquiétant en ce moment, c'est qu'alors même que les médias assurent le spectacle au quotidien, ils ne disposent d'aucune structure pour s'auto-évaluer, pour comprendre leurs faiblesses et identifier les risques d'être manipulés. L'industrie des médias doit assumer sa responsabilité dans sa manière de tout transformer en spectacle pour son seul bénéfice. Ce n'est pas un hasard si les gens ne croient plus aux institutions dans ce pays. Ce que les médias ont choisi de faire est très éloigné de la production d'informations. Ils ont choisi de produire de l'anxiété dans l'espoir que nous reviendrons vers eux de façon obsessionnelle pour en savoir plus. Ce n'est pas sain et cela fait de notre pays un pays malsain. » Donc évidemment, elle parle des États-Unis, c'est une Américaine. Je répète son nom, Dana Boyd, spécialiste des médias sociaux à l'Université de Berkeley en Californie. C'est un billet d'humeur, une lettre d'opinion, si vous voulez, qui est reprise dans Bastamag. Elle a été traduite. Je crois qu'elle avait paru sur Slate à l'origine il y a quelques jours. Vous la trouverez en français sur bastamag.net. Le temps file. Je tente d'inscrire un autre texte dans cette revue de presse. Le Canada vise un rôle actif dans la francophonie internationale. C'est signé Philippe Orfali. Ça paraît dans le journal Le Devoir. À quelques jours du 16e sommet de la francophonie qui se tient très bientôt à Madagascar, Ottawa annonce ses couleurs. Tant en matière d'économie que de diplomatie et de développement, la conférence de Madagascar sera celle du réengagement en francophonie internationale de la part du Canada, a affirmé la ministre du Développement international et de la francophonie, Marie-Claude Bibeau, en entrevue au journal Le Devoir. Donc une interview à lire si la francophonie vous tient à cœur, si le rôle du Canada dans la sphère francophone mondiale vous importe. C'est en date du 24 octobre. En fait, c'est un article qui a un peu plus de 3 semaines environ, mais il demeure pertinent puisque la conférence, le 16e sommet de la francophonie s'ouvre dans quelques jours à Madagascar. On va en reparler dans le débrief, assurément, on y reviendra. Et je termine cette revue de presse avec un article signé Manon Cornelier dans les pages éditoriales du Devoir. Manon Cornelier, qui est la correspondante du journal Le Devoir à Ottawa, elle écrit sur Justin Trudeau et sa visite à Cuba. Alors, je vous lis quelques lignes de cet édito paru en date d'aujourd'hui, 15 novembre. C'est signé Manon Cornelier. Après la Chine, c'est au tour de Cuba de recevoir la visite du fils de Pierre Elliott Trudeau, le premier chef de gouvernement d'un pays du G7 à avoir mis le pied dans ces deux pays communistes, à savoir la Chine et Cuba. Justin Trudeau sera à la Havane aujourd'hui et demain, non pas pour se souvenir, mais pour raffermir une relation négligée et menacée par le réchauffement de la relation entre Cuba et les États-Unis. Les Cubains ont une sympathie particulière pour le Canada parce que le Canada est le seul pays de l'hémisphère, avec le Mexique, à avoir maintenu au lendemain de la révolution cubaine une relation diplomatique ininterrompue avec Cuba. Et parce que le Canada est un des plus gros marchés d'exportation de Cuba et la plus importante source de touristes. Et il y a aussi ce lien particulier qu'ont tissé Pierre Elliott Trudeau et Fidel Castro, au point que ce dernier avait assisté aux funérailles du premier. Donc le leader Maximo, comme on l'appelle, Fidel Castro, avait assisté en effet aux funérailles de Pierre Elliott Trudeau à la fin des années 90. Mais cette relation continue, Manon Cornelier dans son texte, a connu ses hauts et ses bas. Le premier ministre Jean Chrétien y est allé en 1998 à Cuba, mais ses rapports avec les autorités cubaines étaient tendus en raison des atteintes aux droits de la personne, le refus d'inviter Cuba au sommet des Amériques tenu à Québec en 2001 n'avait rien arrangé. Donc une belle histoire dans ce texte, un historique des relations Canada-Cuba à l'occasion de la visite du premier ministre du Canada Justin Trudeau à Cuba ces jours-ci. C'est dans les pages du Devoir, comme je le disais, c'est signé Manon Cornelier. On va clore ce bloc qui réunissait Nouvelles du jour et Revue des éditoriaux pour se rendre dans quelques instants à l'interview du jour. Je vous le disais dans l'intro de l'émission. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Madame Claire Carlin, qui est présidente de l'Alliance française de Victoria. Madame Carlin est professeure émérite à l'Université de Victoria, UVic. Elle évoque dans cette interview ses plus récents travaux sur l'institution du mariage à travers l'histoire. Et elle nous parle bien sûr d'un nouveau portail qui réunira ses travaux et ceux de collaborateurs. C'est dans quelques instants dans le débrief. Restez à l'écoute. Vous êtes de retour dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. On passe au créneau de l'interview. On est en fin d'émission. J'ai le plaisir de retrouver en personne, en studio, ici à CILS FM sur la rue Yates, Claire Carlin, que nombre de membres de la communauté francophone de Victoria connaissent bien, puisqu'elle est présidente de l'Alliance française de Victoria. Nous avons pu l'interviewer à diverses occasions au cours du calendrier 2016. Je la retrouve aujourd'hui en studio à propos de ses recherches, puisque Claire Carlin est universitaire. Elle est prof émérite à l'Université de Victoria au département de français. Bonjour Claire Carlin.
Bonjour Alexis.
Alors merci d'accepter l'invitation. On parle aujourd'hui de vos recherches en littérature. On n'avait pas eu l'occasion de le faire auparavant. On avait souvent abordé les activités de l'Alliance française. Alors on se fait plaisir aujourd'hui. On parle de vos recherches. Vous êtes prof émérite au département de français, je le disais à l'instant. Vous êtes à la retraite depuis peu, mais le travail se poursuit. Vous me l'avez confirmé hors d'antenne. On pourrait peut-être commencer par parler de la subvention importante que vous avez reçue pour mener des travaux sur le 17e siècle.
Oui, c'est en partie pour le 17e siècle. Dans le passé, j'ai obtenu d'autres subventions du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, bien sûr. Et justement, le Canada est exemplaire dans son soutien des recherches en sciences humaines et sociales. Évidemment que j'ai un petit préjugé en faveur de ce genre de recherche. Oui. Et je pense que avoir un regard sur le passé, par exemple, comme je le fais dans mes études d'Ancien Régime ou de Première Modernité, comme on dit de nos jours, c'est-à-dire la période entre le 16e et le 18e siècle, c'est une période dont on peut vraiment apprendre des choses pertinentes pour notre vie actuelle, à mon avis.
Alors, vous avez commencé vos travaux d'universitaire sur le XVIIe siècle et particulièrement certains dramaturges. On vous a connu à travers des travaux sur Corneille. Est-ce qu'on peut faire un petit parcours biographique rapidement avant d'arriver à vos travaux actuels?
Oui, bien sûr. Je suis californienne d'origine. J'ai fait des études aux États-Unis et en France. Et j'ai eu la grande chance, après le doctorat, d'obtenir ce poste au Canada à l'Université de Victoria. Et c'est un des plus grands honneurs et bonheurs de mon existence d'être au Canada et d'être devenue citoyenne de ce beau pays. Et cela a aussi changé ma carrière parce que j'ai commencé tout de suite à regarder vers le Québec et les collègues spécialistes d'Ancien Régime au Québec et puis en France. Alors, c'était vraiment une carrière internationale et on a travaillé ensemble avec ses collègues québécois et français de France pour essayer de créer une ressource pour les chercheurs au sujet du mariage sous l'Ancien Régime. C'est le titre d'un site Internet auquel tout le monde peut accéder, un site qui a été créé avec des fonds publics. On trouve, c'est une anthologie virtuelle où il y a des textes, oui, littéraires, mais aussi moins littéraires, comme des traités d'ordre médical, religieux, légal. Il y a de la satire, il y a des romans, mais c'est surtout des représentations du mariage à une époque où cette institution est en plein changement et où le mariage moderne est en train de naître.
D'accord. Donc, vous avez passé rapidement sur les travaux que vous avez faits plus tôt dans votre carrière et vous êtes allé directement au projet qui vous occupe actuellement.
C'est vrai. La preuve. C'est cela qui me passionne.
C'est ça. C'est la preuve que c'est le projet qui vous passionne actuellement. Donc, vous avez créé un portail dans lequel les internautes peuvent explorer la question du mariage, particulièrement à une époque où le mariage s'est institué et a pris une forme plus définitive, celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est bien ça?
C'est bien ça. Bien sûr que le mariage existait en Europe avant le XVIe siècle, mais c'est au moment de la réforme protestante où l'Église catholique a dû mettre en question et vraiment tenter de renforcer sa propre conception du mariage, qui est en quelque sorte en concurrence avec le mariage protestant. Pourquoi se marier? Est-ce pour avoir une progéniture? Est-ce pour satisfaire aux désirs illicites de façon licite au sein d'une union conjugale? Ce sont les raisons principales promulguée par l'Église catholique, mais les protestants ont mis l'accent sur le couple comme des partenaires qui travaillent ensemble pour s'entraider, avoir des enfants est bien sûr désirable, mais ce n'était pas la raison numéro un pour se marier. C'était créer une structure sociale d'aide réciproque, si vous voulez. Alors, l'accent est différent. L'Église catholique était pour ce genre de relation entre époux, idéalement, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas là où l'Église avait mis l'accent. Alors, l'Église catholique a dû réagir. Et justement, dès qu'on met en question une institution comme le mariage, on commence à l'interroger. Alors, le résultat, c'est pas seulement un discours sérieux, il y a aussi le côté satirique et critique, le portrait de la femme menaçante, un peu trop puissante, l'épouse qui essaie de dominer son mari, toutes les peurs et les hantises au sujet du mariage ressortent du placard, si on veut. Et il se cite aussi plus de 70 gravures, la plupart d'ordre satirique ou comique, qui montrent visuellement quelle était la conception populaire du mariage à cette époque.
Est-ce qu'on peut dire rapidement l'adresse de ce site? On y reviendra en fin d'interview.
Eh oui, c'est très simple. C'est mariage.uvic.ca.
Oui, en effet. Je fais de nombreuses interviews et souvent les adresses sont compliquées. Celle-là est très simple. Ça va favoriser la circulation, la venue de visiteurs sur le site. Est-ce que le site s'adresse aussi au grand public ou seulement
Absolument.
Aux universitaires?
Absolument. C'est surtout jusque-là utilisé par des universitaires et des étudiants, qui s'intéressent à l'histoire. Mais on essaie d'ajouter de plus en plus de commentaires et de contextualisation qui permettra à un plus grand public francophone de profiter de ce site. Et notre autre projet important, une nouvelle subvention de recherche, c'est pour assurer la vie à long terme de ce site et d'autres sites qui ont été créés partout au Canada avec des fonds publics qui risquent de disparaître parce que mettre quelque chose sur Internet n'assure pas du tout la longévité de tel ou tel projet. Alors comment faire? Quelles sont les meilleures pratiques pour la conservation à long terme? Et la conservation de manière à ce qu'un site comme le mien reste utilisable. Ce n'est pas évident. Alors, nous essayons d'ériger des sortes de boîtes à outils pour différentes sortes de projets pour les aider à continuer à exister et les archiver dans différents endroits, de sorte que ça reste en accès libre au public qui a subventionné ces projets. C'est vraiment une question éthique de l'accès libre aux données.
Et pérenne. Excellente idée, excellente vocation. Comment avez-vous eu l'idée de ce portail sur le mariage?
Alors, je me suis mariée à un âge assez avancé pour les femmes de ma génération parce que j'ai hésité longtemps. Mon cher mari, je le connaissais depuis un certain temps avant nos noces quand j'avais déjà 37 ans. Et comme beaucoup de jeunes féministes à l'époque, je mettais en question la nature même de cette institution. Donc j'ai voulu vraiment essayer d'explorer le mariage moderne et la manière dont il se développe depuis 3-4 siècles, l'évolution de l'institution. Et l'effet de l'institution sur l'homme et sur la femme, sur les familles. Nous savons combien le mariage est en train de changer de nos jours, et les mises en question qu'on voyait à cette époque de la première modernité, on en voit de nos jours dans d'autres contextes.
Est-ce que ce portail mariage.uvic.ca contient des textes de votre main? Est-ce que vous avez des essais sur ce portail?
Oui, il y a quelques essais et commentaires. On a aussi essayé d'annoter les textes, surtout les textes qui sont les plus difficiles à comprendre. Nous avons je pense presque 2000 entrées dans notre index de noms propres. Nous avons un index de terminologie médicale parce que le côté médical est beaucoup discuté à cette époque, n'est-ce pas? Le cœur, surtout de la femme mariée, mais aussi de l'homme, comment ça fonctionne. Parce que dès qu'on a un dysfonctionnement du cœur, il y a problème. Pour la famille, évidemment. Et c'était une époque où les découvertes en médecine redonder sur les pratiques dans le lit nuptial, comme le disait Saint-François de Sales. Alors, ce croisement entre le discours religieux, le discours médical, et aussi toute la dimension légale, parce que en France, la monarchie voulait influencer l'institution et était souvent en concurrence avec l'Église.
Est-ce qu'on évolue dans ce site au gré de sa curiosité ou est-ce qu'on doit suivre une gradation, un parcours qui est déjà balisé dans le site?
Non. À l'heure actuelle, quand on entre dans le site, on a le choix, n'est-ce pas? On peut sauter dans la table des matières, entrer où l'on veut. Mais en effet, on est toujours en train de peaufiner la site, oui, de l'améliorer. Et avant d'arriver à l'époque de l'archivage définitif, on espère pouvoir vraiment rendre le site utile, encore plus utile pour différents genres d'usagers.
Est-ce que vous aurez de la vidéo, du multimédia, des interviews, un blog, ou ça va rester surtout des lectures longues, des long reads, comme on dit en anglais?
Non, mais on parle depuis longtemps d'ajouter des interviews avec d'autres chercheurs, par exemple, et aussi peut-être des morceaux de musique. Il y a beaucoup de chansons et mes collègues musicologues commencent à faire des découvertes sur les chansons populaires de l'époque. On essaie de les reconstituer et parfois on peut vraiment découvrir sous quelle air on les chantait, n'est-ce pas? Alors c'est toujours une possibilité pour l'avenir. Évidemment que à l'époque, malheureusement, il n'y avait pas la vidéo, donc rien du 17e, 18e, mais justement, c'est vraiment la beauté. Et pour moi, ce qui m'attire à un tel projet, c'est la potentialité. J'espère que je pourrai réaliser cette potentialité avant d'être obligée à faire un stockage définitif.
Est-ce que vous répondez aux questions d'internautes curieux qui s'interrogent sur le mariage, sur cette époque-là?
Absolument.
Vous animez le site un petit peu?
Les gens peuvent absolument nous contacter, mais on n'a pas publié de forum sur le site, mais justement, c'est une autre possibilité. C'est vrai qu'il y a certaines d'entre les images qui sont assez provocatrices et qui pourraient susciter des commentaires peut-être désobligeantes, que sais-je.
Alors, c'est un site qui continue d'évoluer. Oui. Claire Carlin, un grand merci. On répète l'adresse mariage.uvic.ca. Claire Carlin, un grand merci. Je répète que vous êtes bien sûr présidente de l'Alliance française de Victoria. Vous êtes prof émérite du département de français de l'Université de Victoria. Et nous avons parlé aujourd'hui de vos recherches et de ce nouveau portail sur le mariage. À très bientôt, j'espère, dans le débrief.
Merci bien, Alexis. Et n'oubliez pas le site de l'Alliance française, afvictoria.ca.
C'est un rendez-vous. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour le débrief en ce mardi 15 novembre. Merci d'avoir passé cette heure d'information à l'antenne de CILS FM 107,9. Petite annonce d'intérêt public en se laissant. On parle des cornouillers, cette troupe de danse traditionnelle de Victoria. Ils sont, disent-ils, prêts à accueillir de nouveaux membres. Ils sont également à la recherche d'un directeur artistique. La prochaine rencontre de la troupe Les Cornouillers aura lieu le 21 novembre à l'école Victor Brodeur dans le théâtre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez composer le 250-380-0759, le 250-380-0759 pour participer ou vous joindre aux activités des Cornouillers. Vous demandez à parler à Paul au 250-380-0759. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain 16 novembre. Excellente soirée à tous.